100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Dire non à l'antisémitisme. La France a connu en 2018 une hausse de 74% des actes antisémites. Une vague rouge-brun qui touche beaucoup de pays d'Europe, Eve Minot.
Oui, il s'agit de l'enquête la plus vaste du genre réalisée dans le monde. Elle a été menée par la méconnue Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, créée en 2007 pour récolter et analyser les données disponibles en matière d'atteinte aux droits fondamentaux. Au total, 16 000 personnes de plus de 16 ans vivant dans 12 États membres de l'UE ont répondu à un questionnaire portant sur leur vécu, leur perception des faits d'antisémitisme dans leur pays et leur inquiétude. Résultat, les résultats sont si inquiétants que c'est le rapport lui-même qui parle de déferlante qui menace, je cite, non seulement nos communautés juives, mais aussi les valeurs mêmes des droits fondamentaux et humains sur lesquels l'Union européenne s'est construite.
Et quels sont les premiers enseignements de cette étude, Ave?
Alors il y a d'abord ce pourcentage affolant. 90% des personnes interrogées estiment que l'antisémitisme a progressé dans le pays au cours des 5 dernières années. Un peu moins d'un tiers disent avoir été personnellement harcelés dans l'année écoulée. La même proportion de personnes annoncent éviter de se rendre dans des événements associés à la communauté juive, à tel point d'ailleurs que 1 sur 3 affirme avoir songé à déménager et quitter donc son pays pour des raisons de sécurité.
Et les statistiques viennent confirmer ce ressenti, car la hausse des actes antisémites que l'on connaît en France existe aussi, par exemple, en Grande-Bretagne.
Oui, les chiffres viennent cette fois-ci d'une ONG britannique qui recense les incidents antisémites sur le territoire du Royaume-Uni depuis plus de 30 ans. Selon le rapport 2018, ceci aurait augmenté de 16% l'an passé, passant de 1420 à 1652. Une écrasante majorité de ces actes tombent dans la catégorie dite de comportement abusif. Ce sont des agressions verbales, des emails haineux, des graffitis ou encore des messages antisémites sur les réseaux sociaux. La Grande-Bretagne, qui, rappelons-le, a été marquée cette année justement par une polémique autour du chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, accusé d'avoir laissé l'antisémitisme croître au sein de son parti.
Et en Allemagne aussi, troisième communauté juive d'Europe, les chiffres montrent une hausse de l'antisémitisme dans tout le pays et sa capitale, Berlin.
Oui, 1453 incidents antisémites exactement ont été comptabilisés par la police, qui a conclu dans 95% des cas des actes perpétrés par des personnes proches de l'extrême droite. Cette recrudescence inquiète là aussi le gouvernement, qui a créé un poste de chargé de la lutte contre l'antisémitisme auprès du gouvernement fédéral. Sa mission, encourager les victimes à porter plainte, à s'exprimer, renforcer l'étude de l'Holocauste à l'école et réfléchir aux manières justement de contrer l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Vaste programme.
Et puis, autre enquête, mais résultat tout aussi inquiétant, la vaste étude d'opinion commandée par CNN et diffusée en 2018 dans 7 pays d'Europe.
Oui, dont la France. Et on peut notamment retenir de ce travail effectué cette fois-ci auprès de 7000 personnes en septembre 2018, que la mémoire de l'Holocauste a tendance à disparaître en Europe et surtout en France, qui est le plus mauvais élève européen en la matière. 8% des Français déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'Holocauste. Un chiffre qui monte à 21% chez les 18-34 ans, c'est très inquiétant. Tandis qu'un tiers déclare ne pas connaître grand-chose de l'Holocauste, voire absolument rien chez les jeunes Allemands. Une chose est sûre, en tout cas, près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de cette grande enquête trouvent que leurs gouvernements respectifs n'en font pas suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eve Minot. On vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et l'antisémitisme en Europe prend aussi la forme d'une guerre mémorielle contre la mémoire de la Shoah, ou plus insidieusement par le biais d'une approche révisionniste. Ainsi, en Hongrie, un pays où 600 000 juifs ont péri durant la Seconde Guerre mondiale en raison de la collaboration entre le régime et le Troisième Reich, les musées d'histoire se succèdent et font polémique. Après la Maison de la Terreur, déjà très controversée, le gouvernement Orban veut ouvrir un nouveau musée, la Maison raison des destins, avec là encore le risque de minimiser le rôle de la Hongrie dans l'Holocauste. À Budapest, Florence Labruyère.
Établie dans une ancienne gare d'où partirent les trains vers Auschwitz, la Maison des Destins est achevée depuis 2015. Mais le bâtiment n'est toujours pas ouvert. La principale organisation juive de Hongrie et le représentant du mémorial de Yad Vashem, qui devait siéger au conseil scientifique du musée, ont claqué la porte de l'institution. Le Premier ministre a inauguré un monument présentant la Hongrie comme une victime du nazisme, alors que l'État hongrois a activement participé à la déportation des Juifs. András Eisler, président de la communauté juive, craint donc que le gouvernement se serve du futur musée pour occulter, une fois de plus, le rôle de la Hongrie dans l'Holocauste. Pour tenter de sortir de l'impasse, le gouvernement de Viktor Orban a transféré la propriété de la Maison des Destins à une association juive minoritaire, une association orthodoxe proche du gouvernement. Son dirigeant, le rabbin Shlomo Kevesh, a assuré que le concept du nouveau musée reflèterait fidèlement l'histoire.
Comment moderniser les musées sans trahir la mémoire? Dans le camp de Mauthausen en Autriche, la construction d'un ascenseur pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est vécue comme une trahison. Le comité représentatif des survivants des camps s'estime bafoué, il n'a pas été consulté, la mémoire du camp n'est pas respectée. Reportage sur place de Céline Béal.
La République autrichienne a construit l'été dernier un ascenseur en béton dans la cour du garage des SS à Mauthausen. Auparavant, les visiteurs en fauteuil roulant devaient faire un grand détour pour accéder à l'entrée du camp à proprement parler. Cette construction est vivement critiquée par le Comité international de Mauthausen, l'organisme qui représente les anciens prisonniers du camp et leurs descendants. En effet, la profession de foi des survivants stipule que l'endroit doit conserver son aspect d'origine. Chaque modification peut en effet être utilisée par des négationnistes pour en mettre en cause l'authenticité. C'est ce qu'explique Christa Bauer, directrice du comité de Mauthausen, Autriche.
C'est un processus sans fin de la part de la scène d'extrême droite et néo-nazis de mettre en question l'Holocauste, les camps de concentration et d'extermination. Il est alimenté par chaque modification. Nous sommes totalement en faveur d'un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite, mais on peut le faire autrement. Je pense que plus on implique les organisations de victimes dans la décision, meilleure est la solution.
Christa Bauer reproche à la République autrichienne de n'avoir consulté ni son organisation, ni les conseils consultatifs du mémorial. De même, depuis quelques années, elle dénonce la fermeture au public d'une partie du site. Les relations du comité avec le gouvernement autrichien se sont détériorées depuis un peu plus d'un an, depuis que le Parti de la Liberté, le FPE d'extrême droite, est entré dans la coalition au pouvoir aux côtés des conservateurs. Le comité de Mauthausen refuse d'inviter les ministres et les membres du FPE aux commémorations officielles.
En raison de la profession de foi des survivants, nous ne pouvons inviter que des partis démocratiques.
Dans la coalition, le ministre de l'Intérieur est justement issu de l'extrême droite. Le ministre de tutelle du mémorial est donc en froid avec le comité représentatif des victimes. Du côté de l'administration du site, où travaille Gudrun Bloberger, on témoigne en revanche d'un bon contact avec la secrétaire d'État, Caroline Edstadler, qui appartient au Parti conservateur. Pour la directrice pédagogique, le site a tout à gagner avec ses aménagements.
De notre point de vue, pour nous qui avons affaire tous les jours aux visiteurs, nous pouvons dire que nous sommes contents qu'il y ait un ascenseur, même si la manière dont il a été décidé n'a pas été optimale.
Reste un très gros problème, le site du seul camp de concentration sur le territoire autrichien n'est pas accessible en transport en commun. De l'arrêt de bus le plus proche, il faut marcher en côte pendant une demi-heure. Pourquoi les pouvoirs publics n'apportent pas de solution à ce gros défaut d'accessibilité?
Je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu en Autriche qui attire autant de visiteurs et de visiteuses par an et qui ne soit pas relié au réseau des transports publics. Nous serions très intéressés. Cette revendication date de plusieurs années, voire de décennies. Et jusqu'à aujourd'hui, elle reste sans réponse de la part des responsables politiques.
Gudrun Bloberger indique toutefois que la secrétaire d'État, Caroline Edstadler, s'est engagée à avancer sur cette question. Un autre de ses engagements était de rendre obligatoire une visite à Mauthausen pour tous les écoliers du pays. Sur ce point, beaucoup d'établissements répondent déjà à l'appel. Ce jour-là, plusieurs groupes sont sur les lieux, dont une classe venue de Vienne, comme Yasmine et Sophie.
Comment les gens ont-ils fait pour participer à cela? Comment ont-ils pu trouver ça bien? Pourquoi aussi peu de gens ont-ils aidé les victimes? Et moi, comment je me serais sentie dans une situation pareille?
Je savais déjà beaucoup de choses avant la visite par ma mère et parce que j'ai vu le film sur Anne Frank. On a aussi vu ça en histoire.
Est-ce que tu crois que ça pourrait se reproduire aujourd'hui?
Malheureusement, je crois que oui.
En Autriche, le travail de mémoire sur les crimes nationaux socialistes a été tardif et longtemps lacunaire. Le grand public a plus que jamais besoin de connaître son passé.
Thessalonique, au nord de la Grèce, ville symbole de la communauté juive des Balkans. 50 000 juifs ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, la ville n'a de cesse de travailler sur la mémoire, ce qui suscite aussi des réactions violentes. En Grèce, notre correspondante Charlotte Stivenard.
Un musée dédié à l'Holocauste doit être construit sur le site de l'ancienne gare de Thessalonique. Cette tour octogonale est un des projets phares de la municipalité et de la communauté juive de la ville. Elle a reçu le soutien du gouvernement allemand qui participera à hauteur de 10 millions d'euros sur 22 millions. Un nouveau chantier à la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la communauté juive ne compte plus qu'un millier de personnes. En 2007, à la faveur d'un réaménagement au centre-ville, le mémorial de la Shoah a été déplacé vers un lieu plus central. Il se trouve désormais sur la place de la Liberté, où en 1945, les hommes juifs de 18 à 45 ans avaient été rassemblés avant d'être envoyés dans les camps. Comme d'autres villes européennes, Thessalonique a aussi ses Stolpersteine, ses pavés en métal, sur lesquels sont inscrits les noms des victimes de l'Holocauste. Mais ce travail de mémoire n'apporte pas que des amis à la municipalité. Le maire de la ville, Yanis Boutaris, s'est fait violemment agresser pour toutes ses initiatives. Sans être juif lui-même, il reçoit régulièrement des menaces à caractère antisémite. Et les profanations de la mémoire juive sont courantes. En janvier dernier, des stèles du cimetière juif de la ville ont été détruites. À cette occasion, le président grec Prokopis Pavlopoulos a rappelé qu'à une époque, Thessalonique a été le centre emblématique du judaïsme séfarade. On l'appelait la Jérusalem des Balkans.
Hier, j'ai eu une peur terrible. À 8 heures, sonnerie très persistante. Je n'avais qu'une idée, c'était eux, tu comprends? Mais tout le monde affirma que ce n'était que de petits voyous, le facteur, et je me suis calmée.
Et s'il est un témoignage incontournable en Europe, c'est bien celui d'Anne Frank, jeune juive allemande cachée à Amsterdam, puis arrêtée, déportée, avant de mourir en 1945 dans le camp de Bergen-Belsen à l'âge de 15 ans. Plus d'un million de visiteurs se pressent chaque année dans la maison où elle a vécu. Le musée s'est aujourd'hui modernisé pour attirer la jeune génération. Reportage à Amsterdam de Juliette Rangeval.
Il est 19h. La maison Anne Frank ferme ses portes pour la nuit. Quelques minutes plus tôt, Marine Latour et sa fille ont visité le bâtiment le long du canal Prinsengracht d'Amsterdam. Cette maison où pendant 2 ans, Anne Frank, jeune juive allemande réfugiée aux Pays-Bas, s'est cachée avec sa famille et 4 amis. Une maison rénovée après 2 ans de travaux. Ce n'est pas la première visite de cette mère de famille belge.
Je suis venue quand j'avais 15 ans. J'étais en humanité à l'époque et donc j'étais venue avec dans le cadre scolaire avec ma classe. Mais c'est vrai que la rénovation est vraiment très bien faite et apporte une dimension complémentaire. À la fin de l'exposition, il y a toute une série de personnes qui témoignent. Et puis aussi le témoignage du papa, c'est assez émouvant. Enfin maintenant je le vois comme une maman, donc je pense que les émotions sont aussi différentes. Mais oui, j'avais déjà beaucoup d'émotions, je pense, à 15 ans, parce que j'avais lu le livre avant de venir. Et ça rajoute encore une dimension. Ça me donne envie, en fait, de le relire maintenant.
Le livre, le journal d'Anne Frank, est connu dans le monde entier. C'est l'un des témoignages les plus émouvants de la vie des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a donc les témoignages, comme celui d'Otto Frank, recueilli par la radio-télévision suisse. Le père d'Anne Frank, seul survivant de la famille, c'est lui qui fait publier le journal intime de sa fille en 1947, lui qui transforme la maison en musée en 1960. On l'entend ici raconter en français le moment de l'arrestation.
Un homme arrivé au grenier avec un revolver, il nous a arrêtés et c'était la fin. Alors, il nous a pris dans les chambres de M. Fondan et là, les autres étaient arrêtés, il était là avec les mains, les bras en haut. Et alors on a pris les bagages, on avait le temps pour préparer un peu. Et un wagon venait pour nous emporter aux prisons.
Chaque année, 1 200 000 personnes visitent les lieux. La moitié a moins de 30 ans. Mais aujourd'hui, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale s'effrite peu à peu. Et cette rénovation s'adresse d'abord aux jeunes générations. Un passage de témoin essentiel pour Marine Latour.
Oui, c'est vraiment émouvant. Oui, l'émotion est là parce qu'on se dit que elle n'a pas vécu sa jeunesse et ça, c'est juste pas possible. Et donc, oui, je pense que quand on a eu des enfants aussi, on se dit, bah tiens, on a vraiment beaucoup de chance d'être libre, en fait. Ça rappelle aussi à toute la jeunesse, je pense que ça, c'est vraiment important, que, bah oui, que ces choses-là ont existé, qu'il ne faut pas les ignorer et que justement, on doit lutter, en fait, pour pouvoir rester libre et donner l'occasion à chacun, en fait, de vivre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité. C'est d'autant plus vrai, je trouve, que maintenant, en Europe, il y a quand même beaucoup de nationalisme montant. Et ces choses-là doivent être vraiment bien véhiculées.
Parmi les transformations les plus notables, les audioguides mis à la disposition des visiteurs. Ils permettent de mieux comprendre la vie des habitants de l'annexe entre 1942 et 1944.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Anne Frank a passé plus de 2 ans cachée dans l'annexe. C'est là qu'elle a écrit la majeure partie de son journal, aujourd'hui célèbre dans le monde entier.
Le bruit des pas, le chuchotis du commentaire et les pièces vidées de leurs meubles par les nazis après l'arrestation et la déportation d'Anne Frank et de ses proches. Il y a aussi désormais des vestiaires, des toilettes et un système de réservation pour limiter les longues files d'attente qui s'étiraient jusque-là le long des canaux. La maison elle-même n'a pas changé, bien sûr. On retrouve ses marques au crayon sur la tapisserie, témoin de la croissance d'Anne et de sa sœur. Les cartes postales et les photos de stars découpées dans des journaux et collées sur les murs vides de la chambre par Anne pour l'égayer un peu. La fameuse bibliothèque en haut de l'escalier qui dissimule le passage vers l'annexe où les proches d'Anne Frank se sont cachés pendant 2 ans. Et quelques objets ont fait leur apparition. Anne-Marie Becker de la maison Anne Frank.
Nous exposons désormais les billes qu'elle a données à une petite voisine avant de devoir se cacher.
Des objets pour mieux raconter.
Nous commençons par leur vie à Amsterdam, venant d'Allemagne, parce qu'ils espéraient trouver ici un bon endroit, parce que c'était déjà très dangereux pour les Juifs en Allemagne à cette époque. Et Anne et sa sœur ont grandi ici, c'était d'assez bonnes années. Puis les nazis ont envahi la Hollande et les mesures anti-juives ont été mises en place. On raconte cette histoire et on donne plus d'exemples. On montre 2 photos, l'une d'Anne et l'autre de sa sœur Margot. Ce sont 2 photos de classe ordinaire, mais on en dit plus aujourd'hui sur l'histoire de ces photos. Ces filles ont dû quitter leur école pour une école réservée aux Juifs. Les étudiants juifs étaient exclus de la vie normale. C'était l'une des mesures anti-juives prises à l'époque.
Près de 75% des Juifs habitant alors aux Pays-Bas ont été envoyés vers des camps d'extermination. Anne Frank et les siens ont été dénoncés puis arrêtés par la Gestapo en août 1944. Elle mourra début 45 du typhus dans le camp de Bergen-Belsen.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, puis Accent d'Europe. On se retrouve dès demain. D'ici là, restez à l'écoute de RFI.
Nous écrire accent au pluriel.europe@rfi.fr.